إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc nous sommes toujours dans la série de cours d'explication des trois fondements de Cheikh Mohamed Al-Wahhab, explication faite par Cheikh Obaid Al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala. Nous avions vu donc quelques points de ce livre. On avait commencé par l'introduction. Ya'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ensuite on avait vu la parole de l'imam Shafi'i رحمه الله تعالى. On avait vu وقال Shafi'i رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. On a vu qu'est-ce que Cheikh Abu Jabiri avait dit par rapport à l'imam Shafi'i, que les ulama discutaient l'authenticité de cette parole de Shafi'i, hein, et quelle est la formulation qui était rapportée de manière authentique de Shafi'i, etc. On avait vu tous ces points-là. Et on avait vu ensuite la parole de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Hein? Bab, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, wa al-dalil qawlu ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illa. إلا سيت الفرسان تيرمون كومبليتمون فاعلم فاعلم واستغفر لذنبك أبخي فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Ensuite on avait vu la suite du matin, c'était on avait dit قال المصنف رحمه الله يعلم رحمك الله يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث المسائل، وهذه ثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسلنا إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. سورة المزمل. Hein? Et alors je vous avais préparé une petite série de questions la semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, et on n'a pas eu le temps de, en guise de, si vous voulez, de synthèse du cours de la dernière fois, donc je vais vous les poser aujourd'hui. Qu'avons-nous appris, donc aujourd'hui évidemment c'est la semaine passée, concernant les paroles de l'imam Shafi'i? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu, de manière très rapide et très succincte, très concise, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, qu'est-ce qu'on a appris comme enseignement de l'imam Shafi'i et qu'est-ce qu'on a appris concernant la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala? Allez-y. Hein? Vas-y, je t'écoute. Il l'a dit, t'es sûr? Ah. Cheikh Abu Jabiri dit que. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est-à-dire que malgré ses recherches, et modestement il a dit qu'ils sont peu, hein, moindres, c'est une modestie du shir, hein, il a dit qu'il n'a jamais vu cette parole dans un des livres de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Par contre, le talib ilm qui a fait le ta'liq du livre, qui s'appelle Abu al-Harith al-Yamani, hafidahullah, il a dit quelque chose. Il a dit, il a rapporté un lafd qui a été rapporté de l'imam Shafi'i dans un autre livre. Ibn Kathir dans son tafsir, barakallahu fi, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Kathir? Law tadabbara an-nas. Si les gens méditaient cette sourate, elle leur suffirait. Il a rapporté un autre wajh pour expliquer que, toujours dans la discussion du fait que cette parole à l'imam Shafi'i, est-ce qu'elle est, elle est vraiment de lui ou pas, au niveau du sens, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah. Cheikh Abdel Jabiri, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, si Allah n'avait révélé, n'avait descendu que cette sourate comme preuve, elle aurait suffi aux gens. Qu'est-ce que Cheikh Abdel Jabiri a dit là-dessus? Qu'elle est petite, elle englobe, mais que ça a été aussi quoi? Qu'il y a d'autres preuves que sourate Al-Asr. C'est tout simplement ça, d'accord? C'est tout? C'est tout ce que vous avez dit au niveau de l'imam Shafi'i? Qu'est-ce qu'il a dit? Sa parole? Ok, deuxième question. Quels sont les trois types de gens qui se revendiquent de la prêche? Parce qu'on avait vu quoi? Al-ilmu, wa ma'rifatullahi, wa ma'rifatun nabi, wa ma'rifatun din l'islam bil adillah. Et puis après, al-amalu bih. Et puis, al-da'watu ilayh. Quels sont les trois types de gens, de personnes, qui se revendiquent de la prêche? Tadal. Masha'Allah, ahlul basirati, wal-fiqh fi d-din. Hein, les gens de la clairvoyance, de la compréhension, la clairvoyance dans la religion, de la science dans la religion. Évidemment, c'est la seule des trois catégories que le shir, dont le shir a dit du bien, évidemment. Et la deuxième catégorie, les gens de l'ignorance, naam. Yani qui revendiquent la da'wah, qui font la da'wah sans science. Et il a dit qu'ils sont quoi pour les gens des passions? Ahl ahwa, ils sont une. En arabe, il a dit sulamun. Ils sont une échelle pour les gens des passions. C'est-à-dire que les gens des passions les utilisent. Troisième catégorie. Et dalal. Ahlul fitnati wa dalal. Les gens de la fitna et de l'égarement. Qu'est-ce qu'il a cité comme exemple, cher? C'est qui? Vas-y. Les suiveurs de Abdullah ibn Saba. Qui est Abdullah ibn Saba? Qu'est-ce que Cheikh Abdel Jabiri a dit de lui? C'est un juif yéménite qui s'est converti hypocritement, il a dit le Cheikh. Il a dit Aslama nifaqa. Comme ça, il a dit exactement. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait Abdullah ibn Saba? Il a incité les gens contre. Excité même plutôt les gens contre. Contre Uthman ibn Affan, et à tel point que ça a été arrivé comme conséquence à quoi? À l'assassinat de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu arda'ah. Qu'est-ce qu'il a dit que sur les révolutionnaires du jour d'aujourd'hui? Quel est le rapport entre les révolutionnaires du jour d'aujourd'hui et de toutes les époques avec Abdullah ibn Saba? Quelle est la correspondance entre les deux? Exactement, ce sont les héritiers d'Abdullah ibn Saba. Ils ont gardé ce côté-là de, ce côté révolutionnaire de, l'inciter à se rebeller contre le gouvernant. D'accord? Ça va? Qu'est-ce que on avait vu en troisième question plutôt? Combien de moyens, de causes qu'on appelle asbab, et Cheikh Sa'di rahimahullah a rapporté dans son tafsir pour acquérir la science? Et qui sait me rappeler pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça? Qu'est-ce que Cheikh Sa'di il a voir dans ce livre? C'est un livre de Cheikh Abdel Jabiri ici. Qui sait me rappeler comment est-ce qu'on est arrivé à citer Cheikh Sa'di et le nombre de points? Évidemment, le top du top ce serait de rapporter les points, mais bon. Il y en a? Oui, ça c'est déjà bien. Pourquoi est-ce qu'on a rapporté Cheikh Sa'di? Qu'est-ce que Cheikh Sa'di a à voir avec ce cours? Quel ayah? Quel verset? Fa'lam. Annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Exactement. Donc, Cheikh Abdel Jabiri, en fait, a cité Cheikh Sa'di, ce qu'il a rapporté une fa'ida de Cheikh Sa'di dans son tafsir. D'accord? Et à la fin, il a même dit, si je me souviens bien, il a dit, Annick, qu'il faudrait aller lire pour voir, que, parce que c'est vraiment des belles paroles et des paroles pleines de sens et pleines d'enseignements. Et donc, il y avait 8 points. La cerise sur le gâteau qui peut le rapporter, ou en tout cas quelques-uns. Vous pouvez vous aider des notes, hein, si ça ne va pas. Mais de manière concise, parce que, surtout pour les gens qui sont sur Paltol, peut-être les gens qui n'ont pas assisté au cours précédent, ils risquent de s'ennuyer un peu, de perdre le fil. Donc, non. Donc en fait, de manière générale, plutôt pour aller vite, pourquoi il a rapporté cher ça, a dit 8 points. Qu'est-ce que sont ces 8 points? J'ai dit pour acquérir la science, mais ce n'est pas suffisant. Acquérir quelle science? La science de la ilaha illallah, la science du tawhid, na'am, c'est juste. Quatrième question, quelle est la position des khawarij, des mu'tazila et de ahl sunnah concernant al-fasiq al-milli? Alors, je voudrais que vous me définissiez qu'est-ce que al-fasiq al-milli. Évidemment, quand j'ai dit le mu'tazila, le khawarij et ahl sunnah, ils n'ont évidemment pas les mêmes positions. Hein? Les khawarij et mu'tazila, ils sont d'accord sur certaines choses, ils divergent sur certaines choses, et ahl sunnah al-jama'a, ils sont sur la parole de vérité. Vas-y, tfaddal. C'est quoi le fasiq al-milli? C'est la position, si vous voulez, par rapport à celui qui, le fasiq al-milli, celui qui commet un grand péché, parmi qui? Parmi les gens de notre communauté, na'am. C'est pour ça qu'on l'appelle fasiq al-milli. C'est-à-dire parmi les gens qui sont croyants. Mais il fait un grand péché. Quelle est la position des khawarij là-dessus? Première position. Fadal. Peut-être laisser parler quelqu'un d'autre. Naam, Fadal. Hein? Donc le frère nous dit que le khawarij le juge, c'est-à-dire qui? Celui qui fait un grand péché, même s'il est croyant, il le juge mécréant dans ce bas monde, dans Dunya. C'est ce que le hukm Dunyawi. Et le hukm al-ukhrawi, ils disent qu'il est éternellement en enfer. D'accord? Le mu'tazila? C'est juste ce qu'il dit. Donc le mu'tazila disent qu'il est fi manzilatin en arabe, bayna al-manzilatayn. C'est-à-dire qu'il est dans un degré entre les deux degrés. C'est qu'il n'est ni croyant, ni mécréant. Ça, c'est dans Dunya. Par contre, dans l'au-delà, ils disent, le Mu'tazila, quoi, qu'il est éternel, il est voué à l'enfer éternel. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut déjà faire une correspondance entre Khawarij et le Mu'tazila? Ils sont d'accord sur une chose et ils ne sont pas d'accord sur une autre chose. Ils sont d'accord sur le jugement après la mort. D'accord? Ils disent tous deux qu'il est éternel dans l'enfer, sauf que le Khawarij le rend mécréant et le Mu'tazila, ils disent non, il n'est ni croyant ni mécréant, il est entre les deux. Et maintenant, quelle est la parole de vérité? Hein? Et pourquoi c'est la parole de vérité? Et c'est qui dit la parole de vérité? Donc ça c'est qui? Ahl Sunnah wal Jama'a. Non? Pourquoi on les appelle Ahl Sunnah wal Jama'a? Parce qu'ils s'accrochent à la Sunnah et ils se regroupent sur cette Sunnah. Non? Ahl mutamassikuna biha wa mujtami'una 'alayha. C'est juste. Quelle est leur parole de vérité et pourquoi c'est la parole de vérité? Ils sont toujours musulmans, mais ils ont commis un grand péché. C'est-à-dire quoi? On avait utilisé plusieurs termes, formulations des ulama. Ils disent, je vais vous le dire en arabe peut-être pour vous aider, hein? Mu'minun? Mu'min naqis l'iman. C'est-à-dire qu'un croyant qui est à la fois diminué par son grand péché. Ou mu'minun bi'imanihi fasiqun bi'kabiratihi. C'est-à-dire qu'il est croyant par sa croyance, mais pervers, fasiq, si vous voulez, par son grand péché. D'accord? Pourquoi c'est la parole de vérité? C'est vraiment très simple. Parce qu'ils sont basés sur le Coran et la Sunna. Et ils ont regroupé les textes de l'Wa'd et l'Wa'id. Qu'est-ce que l'Wa'd et l'Wa'id? Vraiment, très littéral. Je sais que français, c'est... Hein? On avait expliqué d'ailleurs ça la dernière fois. C'est les textes de promesse, c'est les textes qui... Hein? De menaces, si vous voulez, de châtiments. Hein? Ils ont regroupé tous les textes. D'accord? Et qu'est-ce qu'il avait dit, cher Abel Jabiri, par rapport à celui qui meurt sans tauba, par rapport au grand péché? C'est les gens de la sunna. Qu'est-ce qu'ils disent sur lui? C'est très juste ce que tu viens de dire, c'est il est sous la mashi'a d'Allah Azza wa Jalla, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne, rahmatan minhu, et s'il veut, il le châtie, adlan minhu, subhanahu wa ta'ala, par justice de sa part. Ok? Question suivante. Citer dans l'ordre les trois bienfaits qu'on a compris dans la parole de l'auteur, qu'Allah nous a créés. On avait cité trois ni'ma. أن الله خلقنا ورزقنا ولم تركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. On avait cité trois. سبحان الله, en langue arabe il y a le même genre de terminologie, il y a une rime dans les trois. Je vous aide beaucoup là. MashaAllah, ni'matul ijad, la première, an Allah khalaqana. Qu'est-ce que ça veut dire l'ijad? An Allah azza wa jalla awjadana min adam. C'est qu'Allah nous a fait exister à partir du néant. Naam, barakallahu fik, deuxième. MashaAllah, ni'matul imdad, an Allah razaqana. Hein? Masha'Allah, qu'Allah nous envoie un messager, c'est ni'matu al-imdad. Al-i'dad, pardon. Donc on avait dit quoi? Ni'matu al-ijad, puis ni'matu al-imdad, puis ni'matu al-i'dad. Allah nous a créés à partir du néant. Il pourvoit nos besoins, subhanahu wa ta'ala. Deuxième ni'ma, après la première. Et troisième ni'ma, il nous envoie un messager. Alayhi salatu wa salam. D'accord? Comment comprend-on des versets de Surat Muzammil l'obligation d'obéir au prophète alayhi salatu wasalam, et la mise en garde contre sa désobéissance? C'est-à-dire qu'on a cité le verset de Surat Muzammil qui est Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna ar-rasula fa'akhadhnahu akhdhan wabila. Comment est-ce qu'on prend ce verset? Waj listidlal, comme je vous dis toujours, que l'obligation qu'on doit obéir au prophète alayhi salam et la mise en garde contre sa désobéissance. Je sais que ça prend un peu de temps ce genre de synthèse, mais c'est très très important pour l'étudiant parce que ça permet de remettre les choses en place. Et hein, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que Pharaon et son peuple ont reçu un messager. Et qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? C'est dans le verset d'ailleurs, fa'asa Fir'aunu ar-rasoula. C'est qui ar-rasoula? Moussa alayhi salam. C'est que Pharaon a désobéi au messager qui est Moussa alayhi salam, Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Fa'akhadhnahu akhdhan wabila. On l'a donc saisi rudement, comme on avait traduit de manière très approximative, traduction du sens de la parole d'Allah. Et donc là on a clairement une obligation d'obéir au prophète alayhi salam et mise en garde de peur de subir le même châtiment que Pharaon et tous les gens qui ont rendu mensonger et désobéi au messager. D'accord? Dernière question. Quelle est la preuve citée de la sunna à ce sujet? Hadith que vous connaissez tous. Rachid. Tu peux dire en français, le sens du... Même le sens en arabe, c'est autorisé de rapporter un hadith avec le sens. Hein. Exactement. La yadkhulul jannata... Hein? Kullukum yadkhulun al jannata, voilà. Kullukum yadkhulun al jannata illa man aba. Wa qalu... ومن يأبى يا رسول الله ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا حديث كي رابورتي بار كي أبو هريرة ما شاء الله إي إلي رابورتي دون كو دون البخاري ها تي سيغ تي با لو كور لا سيمين باسي ها ألوغ كيسكو فو ديت. Cheikh a dit qu'il a rapporté dans le Bukhari. D'accord? Donc, ça c'est un hadith qui est clair. C'est que quoi? C'est que vous rentrerez tout. On avait traduit ça de manière très approximative. Hein, on avait dit quoi? Tout, vous rentrerez tous au paradis, sauf ceux qui refusent, littéralement. Hein. Il dit, qui refuse donc au messager d'Allah? Il dit, celui qui m'obéit rentrera au paradis, et celui qui me désobéit aura certes refusé. D'accord? C'est très bien tout ça. Donc maintenant, on continue directement, inchallah, la parole de Cheikh Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah, et l'explication de Cheikh Obed Al-Jabiri. On est arrivé à قال المصنف رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن. Cheikh Abdel Jabiri nous explique cela en disant هذه المسألة الثانية وهي تدل على المنهج الصحيح والقاعدة السديدة في العبادة وذلكم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا ما اتفقت عليه كلمة الرسل من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام فكل الرسل دعوا قومهم إلى إخلاص العبادة لله ولم يدعوا الرسل عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله هكذا مطلقة بل مقيدة بالإخلاص. ولنأخذ أمثلة على ذلك. المثال الأول قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل. دلت هذه الآية على اتفاق الرسل على دعوة الناس إلى التوحيد الخالص والعبادة الخالصة، فإن الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. ثانيا ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر صالح وهود وقبلهما نوح عليهم الصلاة والسلام، فكلهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سورة الأعراف. وهذا هو توحيد الألوهية الذي كان فيه النزاع والخصومة بين النبيين وأممهم. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم وأمرهم أن يعبدوه بها. ومن أجل هذا التوحيد كانت المفاصلة والعداوة والبغضاء وحز الرؤوس. كيف كنو دي الشيخ محسن العباد الشيخ محسن الوهاب رحمه الله ici c'est et avant que j'oublie, c'est qu'il n'y a pas cours la semaine prochaine, hein, vous savez, hein, tout le week-end. Pourquoi? En raison de la daura qu'il y a la semaine prochaine ici. Il y a la daura avec Abu Hakim, Abu Khadija, Hassan Somali, Abu Hassan Malik, l'Amériki, hein, et d'autres frères encore peut-être que j'oublie, hein, Amjad Rafiq, etc. Donc il y a une daura la semaine prochaine de vendredi, samedi, dimanche. Et on attend toujours peut-être, c'est pas encore sûr, mais c'est annoncé, la venue de Cheikh Falah Ismail min Dakar du Koweït, hafidhahullah ta'ala. Donc en raison de la daura, il n'y a pas cours ni samedi ni dimanche. Hein? Et si le Cheikh vient, il n'y a plus cours jusqu'à ce que le Cheikh reparte. Comme chaque année, d'accord? Ça va? Mais on se tient au courant, Inch'Allah. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, et quand on dit l'auteur, c'est qui? Cheikh Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah, a dit le deuxième point, qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe quelqu'un dans l'adoration. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Et la preuve de cela est la traduction du sens de la parole d'Allah. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Selon donc la traduction du verset 18 de Sourate Al-Jin. L'explication de Cheikh Obed Al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala. Le deuxième point, il indique la voie correcte et la règle juste dans l'adoration. Et c'est Allah, et c'est le fait qu'Allah n'agrée pas que lui soit associé quoi que ce soit dans son adoration. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Et tous les messagers sont unanimes. Et ça, c'est important de comprendre. Tous les messagers sont unanimes sur ce point, depuis Nuh, alayhi salam, jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi salam. Tous les messagers ont appelé leur peuple à vouer une adoration exclusive à Allah. Et les messagers n'ont pas appelé à adorer Allah simplement, mais ils ont appelé à adorer Allah avec sincérité, exclusivement. Prenons quelques exemples à ce sujet. Le premier, la traduction du sens de la parole d'Allah. Hein? « Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut » La traduction du sens de la parole d'Allah, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout » Surat al-Nahl, verset 36. Ce verset indique l'unanimité des messagers sur le fait d'appeler les gens à l'unicité pure et l'adoration sincère, car Allah n'accepte de l'adoration que ce qui lui a été voué de manière sincère. L'autre jour, j'ai discuté quelques jours avec quelqu'un qui se dit chrétien, qui est des Caraïbes, mais dit qu'il est ni protestant, ni catholique, etc. Et c'est ce que je lui ai rapporté. Je lui ai dit, Yannick, tous les messagers étaient d'accord sur ce message-là, qu'il doit, et toi et d'autres, le tawhid, ça peut... Parce qu'il n'accepte pas, en fait, que Mohammed soit le dernier des messagers. D'accord ? On a une discussion à ce sujet-là, et j'ai commencé à discuter avec lui par rapport à ça. Deuxième exemple. Ce dont Allah nous a informé concernant l'histoire de Salih, Ehud, et avant eux, Nuh, Noé, alayhi salatu wassalam. Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Surat al-A'raf, verset 59. Ceci est le tawhid, l'unicité de divinité, tawhid al-uluhiyya, qui a été le sujet de divergence entre les prophètes et leur communauté. Entre les prophètes, alayhi salatu wassalam, et leur communauté. L'unicité des divinités, c'est l'unicité d'Allah par les actions des serviteurs. Tawhidullah bi af'al ibad. Qu'il leur a légiféré, ça c'est une condition importante. C'est pas n'importe quelle action, c'est l'action qu'il leur a légiféré. Et par lesquelles il leur a ordonné de l'adorer. En raison de ce tawhid, il y a eu l'inimitié, la détestation, l'adawat wal barda, et les têtes ont été coupées. Sa parole, hein, wala la malakun muqarrabun, al malak wahidul malaika, ma'khudun min al aluka, wa hiya risala. Wal malaikatu ibadullah al mukramun, alladhina la yasbiqunahu bil qawl, wa hum bi amrihi ya'malun. Wa maddatu khalqihim min nur. كما صح بذلكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنس مخلوقون من التراب والجان مخلوق من نار والملائكة مخلوقون من نور وهم مقربون إلى الله سبحانه وتعالى مكانا ومكانة من حيث المكان فهم في السماوات ومن حيث المكانة استفاء الله لهم وجعلهم رسلا مكلفين بوظائف ومنهم جبريل عليه الصلاة والسلام أمين الله على وحيه وسفيره إلى أنبيائه ورسله والنبي مأخوذ من النباوة بمعنى المكان المرتفع أو من النبأ وهو الخبر العظيم واصطلاحا رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه أو جاء بتقرير شريعة سابقة هذا هو غير التعريف المشهور فالتعريف المشهور خطأ والتعريف الذي كان مشهورا عندنا أن النبي عليه الصلاة النبي اصطلاحا رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه هذا قاصر والصواب إن شاء الله ما قررته آنفا رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه أو جاء بتقرير شريعة سابقة مثل أولي العزم وصالح وشعيب وهود أو جاء بتقرير شريعة سابقة كأنبياء بني إسرائيل بين موسى وعيسى فإنهم جاءوا بتقرير شريعة موسى مثل يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام والدليل على أن النبي مرسل مثل الرسول قول الحق جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الحج فالآية نص على أن النبي مرسل مثل الرسول ولا يعرف أن الله أوحى إلى رجل وأمره بالقعود في بيته. Je sais que c'est un peu long pour les francophones, mais c'est pour inchallah qu'on puisse lire le texte en français en une fois. ولعله يزيد هذا توضيحا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء فكلما هلك نبي خلفه نبي ولا نبي بعدي. والحديث رواه البخاري في الصحيح قد جعل الله سياسة هذه الأمة في العلماء فالأنبياء دعاة ومعلمون ومرشدون ومنهم من هو رسول النبي وهو من كانت شريعته مستقلة ومنهم من هو نبي وهو من جاء مقررا لشريعة من قبله هذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن وأن المساجد لله، المساجد مواضع الصلاة، سواء كانت مبنية أو أرضا لا بناء فيها، وسميت المساجد لأنها مواضع السجود، والسجود أشرف أركان الصلاة وأعظمها، فلا تدعو مع الله أحدا. نهي عن الشرك عامة، عن الدعاء مع الله خاصة، لأن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشرك في اللغة التسوية، وفي الاصطلاح تسوية غير الله بالله. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Abel Jabri ici? Sa parole, ni un ange rapproché, malakun muqarrabun, al-malak, c'est le singulier de malaika, un ange. Cela vient de al-aluka, qui veut dire al-risalah, le message. Les anges sont des serviteurs honorés, ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Évidemment, le cheikh ici fait référence à un verset du Coran. Ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. C'est sourate al-Anbiya. Ils ont été créés de lumière comme cela a été rapporté de manière authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors ici, Abu al-Harith al-Yamani hafidhahullah, il nous fait une note de bas de page, il dit: rapporté par Muslim dans son authentique, dans son sahih, de Aïcha radiallahu anha, elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges ont été créés de lumière et les djinns ont été créés de la flamme d'un feu sans fumée, et Adam alayhi salam a été créé de ce qui vous a été décrit. Si quelqu'un vous demande quelle est la preuve, vous avez le hadith de Sahih Muslim rapporté par Aïcha. Les gens ont été créés de terre, les djinns de feu, les anges de lumière. Ils sont rapprochés d'Allah, donc qui, les anges évidemment, par leur lieu et leur position. En arabe on a dit makanan wa makanatan. C'est pas la même chose en langue arabe. Makanan c'est le lieu, en lieu si vous voulez, hein? Et makanatan en position, par la position. D'accord? Donc al-makanatu c'est la position, al-makanu c'est le lieu, lieu géographique si vous voulez. Donc je parle dans la langue arabe ici. Maintenant concernant les anges, Cheikh dit ici, ils sont rapprochés d'Allah par leur lieu et leur position. Le statut exactement. Le lieu car ils sont dans les cieux, la position car Allah les a choisis. Et en a fait des messagers qui ont été chargés de différentes tâches. Parmi eux, Jibril alayhi salam, le digne de confiance à qui Allah a confié la révélation, et son ambassadeur envoyé au prophète, au pluriel, au prophète, ton messager. Un nabi vient de An-Naba'atu, c'est-à-dire l'endroit élevé. An-Naba'atu, l'endroit élevé. Ou vient de An-Naba'atu, qui est l'information importante. D'ailleurs, si je me souviens bien, Cheikh Al-Uthaymeen, dans Sharh Kitab al-Tawhid, Al-Qawl Mufid, il dit qu'en fait, An-Nabi, c'est la même chose, il dit que ça vient parce qu'il est élevé, An-Nabi. Il vient de la même racine. Et An-Nabi, avec le Hamza, ça vient de Naba. Et si vous regardez bien, pour ceux qui connaissent un peu dans l'ilm de Qira'at, quand vous avez Qira'at Warsh, on ne dit pas Ayyuha An-Nabi, on dit Ya Ayyuha النبي ودي النبيون النبيين ها اذا قرات حفص ودي النبيون يا ايها النبي اتق الله في سوره الاحزاب ها النبيين et vous voyez que النبي سبحان الله il reprend les deux sens, il est élevé et il apporte une information importante. D'accord. Dans le jargon des ulama, dans le vocabulaire des ulama, dans le vocabulaire de la législation islamique, c'est un homme parmi les fils d'Adam. Je vous demande de vous concentrer un peu parce que Cheikh, il nous fait comprendre qu'avant, il donne une autre définition et qu'il considère maintenant qu'elle est fausse et qu'il a changé la définition. Donc il dit, dans le jargon, c'est un homme parmi les fils d'Adam à qui Allah a révélé une législation et lui a ordonné de la transmettre. Où est venu pour affirmer une législation précédente. Voilà, c'est ça la définition d'un quoi ? D'un nabi, d'un prophète. Cette définition est différente de la définition connue Car la définition connue est fausse. La définition qui était connue chez nous est que le prophète, dans le jargon de la législation islamique, est un homme à qui était révélée une législation et auquel il n'a pas été ordonné de la transmettre. Or, maintenant, qu'est-ce qu'il a donné dans la définition? Il dit que quoi? C'est un homme parmi les fils d'Adam qui a reçu la révélation et à qui a été ordonné de la transmettre. Ceci n'est pas complet, donc la définition qui est connue. Ce qui est juste, incha'Allah, c'est ce que nous avons, ou ce qui est dit sur le shirzi, c'est ce que j'ai établi avant, un homme parmi les fils d'Adam à qui Allah a révélé une législation et auquel a été ordonné de la transmettre. Où est venu, pour affirmer une législation précédente. Comme par exemple, ce qu'on appelle Ulul Azm. Qui sait me dire c'est quoi Ulul Azm et quels sont Ulul Azm et combien ils sont parmi les prophètes? Ils sont 5. Pourquoi on les appelle Ulul Azm? Où? Si tu dis qu'Allah les a appelés comme ça, où? Donne-moi la preuve. Fasbir kama? Kama? Sabara Ulul Azm min ar-Rusul? Naam. C'est juste, c'est bien, je dis, mashallah. C'est pas parce que je te demande un dalil que tu as tort. D'accord, c'est très bien, mashallah. Mais je voudrais le mot en français pour que les gens qui ne comprennent pas l'arabe comprennent qu'est-ce que veut dire Ulul Azmi. Je pense qu'il traduit ça par les dotés de résolution. Hein? C'est ça, hein? Donc, qui sont les 5? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 1, Nuh alayhi salam 2, Ibrahim alayhi salam 3, Moussa alayhi salam 4, alayhi salam. Qui sait me dire un verset où ils sont cités? Ouais, mais une case, c'est la fin. Hein? Je vous aide un peu. Surat al-Ahzab, deuxième page. لقد أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. Voilà, ils sont cités les quatre. Minka, c'est qui? De toi, c'est qui? Mohammed صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. D'accord? Donc on a dit les cinq, c'est quoi? Mohammed صلى الله عليه وسلم, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa. Ça, c'est les cinq qu'on appelle Ulul Azm min ar-Rusul. D'accord? Et donc, Cheikh, il dit comme exemple, comme Ulul Azm. On a dit qu'ils sont Mohammed, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa, les dotés de résolution, si vous voulez une traduction. Également, comme à titre exemple, Saleh, Shu'aib, Houd, hein? Donc, on a dit où sont venus pour affirmer une législation précédentes comme les prophètes de Banu Israël, les fils d'Israël. Entre Moussa et Isa, ils sont venus pour affirmer la législation de Moussa, comme par exemple Yusha ibn Noun, alayhi salatu salam. La preuve que le prophète est envoyé au même titre que le messager, c'est la traduction du sens de la parole d'Allah. Nous avons envoyé avant toi. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Sourate al-Hajj, verset 52. Qui sait me dire ici, parce que le cheikh va dire juste après, ce verset est une preuve sur le fait que le prophète est envoyé au même titre que le messager. Comment est-ce qu'on peut tirer ce qu'on appelle le wajh l'istidlal? Hein? Comment est-ce qu'on peut tirer ça de ce verset-là? Je vous le répète peut-être. Hein? En tout cas, la traduction. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. La question, je dis, comment est-ce qu'on... C'est un dalil, c'est une preuve. Comment est-ce qu'on comprend cette preuve, ce qu'il a dit? Hein? Vas-y, redis. Exactement, ni messager, ni prophète. Qui n'est récité? Istidlal, il est... Hein? Regardez, je vous dis peut-être en arabe, c'est peut-être plus clair. « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ » Vous voyez ?« مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ » Sourate Al-Hajj, verset 52. Des chercheurs disent en arabe directement « فَلْ آيَةُ نَصٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ مُرْسَلٌ مِثْلِ الرَّسُولِ » ولا يعرف ان الله اوحى الى رجل وامره بالقعود في بيته. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que ce verset est une preuve sur le fait que le prophète est envoyé au même titre que le messager et qu'il n'est pas connu. Regardez encore une autre manière de voir les choses. Il n'est pas connu qu'Allah ait révélé à un homme et lui ait ordonné de rester à la maison. Donc si quelqu'un te dit oui, mais quelle est ta preuve? Tu lui dis toi, donne-moi la preuve qu'Allah ait révélé à un prophète et qu'il lui ordonne de rester à la maison. Et de ne pas transmettre. Hein? Peut-être plus de clarté sera faite par la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les fils d'Israël étaient dirigés, gouvernés, tasusuhum. D'où vient le mot siyasa? Et Cheikh va le citer d'ailleurs après. Hein? Gouvernés par les prophètes. Chaque fois qu'un prophète mourait, un prophète lui succédait. Et il n'y a plus de prophète après moi. D'accord? Rapporté par le Bukhari. Allah a donné la gestion, la gouvernance de cette communauté aux savants. Les prophètes sont des prêcheurs, des enseignants, des guides. Parmi eux, il y a des messagers prophètes. Et ce sont ceux qui ont reçu une législation indépendante. Et parmi eux, il y a le prophète, qui est celui qui est venu affirmer une législation précédente. Je pense que c'est très clair ce que le cheikh a dit ici. Hein. Ensuite, le cheikh continue en disant, ce verset, en tout cas la traduction ici, qu'on cite, « Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. » C'est le verset qu'on a cité. « وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمْ عَلَّهِ أَحَدًا » Quand est-ce que le cheikh a cité ce verset, cheikh Mahlou Al-Wahhab? Quand il a dit quoi? لا يرضى بارك الله فيك أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى إلى بخذ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. سورة الجن verset 18. Les mosquées sont consacrées à Allah. Les mosquées, pourquoi elles appellent mosquées d'ailleurs masajid, les endroits de prière, qu'elle soit construite ou une terre sans construction. Qui sait me donner un dalil? Et je vous l'ai déjà rapporté, je pense, dans Shurut Salah. C'est un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Hiro Al-Ghalil. Ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Masjidan wa tahura. D'accord? Elles ont été appelées masajid car elles sont les endroits de sujoud, de prosternation. Et la prosternation est le plus noble des piliers de la prière. Vous voyez comme quoi les deux cours qu'on fait, c'est hein, l'un à l'autre. Lire, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu les piliers de la prière après avoir fini quoi? Les conditions de la prière. Et aujourd'hui, on parle de quoi? D'un des piliers de la prière qui se joue. Hein? Et les donc on a dit quoi? Et la prosternation est le plus noble des piliers de la prière et le plus important. N'invoquez donc personne avec Allah. Fala tad'u ma Allah ahada. Regardez ici comment les chouchs sont précis. Nous, des fois, on lit des choses, on ne fait pas attention. Cheikh, il a dit, Mahlou Al-Wahhab, An Allah la yarda a yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Il n'a pas dit fi du'a'i. Or, dans le verset qui est cité, Fala tad'u ma Allah ahada. Comment est-ce qu'on comprend ça? C'est ce que le Cheikh va expliquer ici. Hein? C'est une interdiction, donc ce verset-là, d'associer de manière générale et d'invoquer Allah de manière particulière. Donc de ce verset-là, on comprend l'interdiction générale d'adorer avec Allah. Hein? D'accord? Et de manière particulière, d'invoquer quelle que soit la personne ou la chose, invoquer avec Allah. D'accord? Car l'invocation, et là vous allez tout comprendre, inshallah, car l'invocation est l'adoration. Comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'est rapporté le hadith? Un hadith qui est très connu. Il me dit, ne rapporte pas la version faible, s'il vous plaît. Ad-du'a, huwa al-ibada. Hein? C'est ça la version authentique, tandis que la version qui dit, d'ailleurs qui se retrouve dans Usul Talata, ad-du'a, mukh al-ibada, hadith daif. Si je me souviens bien, c'est parce qu'il y a Ibn al-Hi'ah dans le Sanad. Hein? D'accord? Donc, le shirk dans le sens linguistique, dans son sens linguistique, veut dire at-taswiya. Hein? Si vous voulez, c'est la mise à niveau. Hmm? D'accord? Dans le vocabulaire de la législation islamique, c'est mettre autre qu'Allah au niveau d'Allah. C'est ce que le shirk a dit ici. Taswiyatu ghayrillah billah. On continue ensuite avec le troisième point. On avait dit quoi? C'était quoi la première? Qui s'est venu de me rappeler? On a dit يَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنْ يَجِبُ عَلَيْنَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمِينَ وَمُسْلِمَتِينَ تَعَلُّمُ هَذِهِ الثَّلَاثِ الْمَسَائِلِ وَالْعَامَلُ بِهِنَّ الْأُولَى أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا بَلْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا رَسُولًا فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا سورة المزمل. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن verset 18. Ensuite الثالثة. C'est quoi? C'est juste, toi tu en avances, mashallah. Anna man ata'a ar-rasula wa wahhad Allah la yajuzu lahum walatu man hadda Allah wa rasulahu wa law kana aqrab qarib wa ad-dalil qawlu ta'ala. Vas-y. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أيوة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Donc Cheikh Abdel Jalbi, c'est bien, on a dit sans même le lire, alhamdulillah, on l'a dit par cœur. Maintenant on rentre directement alors dans la... Et ça, c'est, j'apprécie vraiment que les frères étudient par cœur. Je vous ai toujours dit, hein, que l'hifd avec le fahm, la compréhension avant, avec la mémorisation. C'est ça le talib ilm. Il faut les deux. Si tu mémorises et tu ne comprends pas, il n'y a pas d'intérêt. Si tu comprends que tu ne mémorises pas, c'est vrai qu'il y a un intérêt, mais quand même, la manière, ce qui est complet, c'est comme de mémoriser et de comprendre. Et d'ailleurs, j'aime pas trop sortir du cours, mais c'est peut-être intéressant de le rapporter. C'est un shir qui a rapporté Al-Hafidh Al-Hakami. Vous connaissez Al-Hafidh Al-Hakami, qui est mort à l'âge de 35 ans, rahimahullah, et qui avait déjà écrit de nombreux ouvrages. C'était une, subhanallah, ayah min ayatullah, subhanahu wa ta'ala, dans l'ilm. Hein? À titre d'exemple, vous connaissez tous Tuhfatul Atfal, qui est un des premiers maîtres dans le Tijouid qu'on doit étudier dans le Tijouid. Et bien, Sheikh Al-Qara'awi, qui est l'imam qui a revivi la da'wah salafi dans le sud de l'Arabie Saoudite, et qui est le shir de Sheikh Najmi, le shir de Hafidh Al-Hakami, le shir de Sheikh Zayd bin Hadi Al-Madkhali, le shir de Sheikh Mohammed bin Hadi Al-Madkhali, le shir de Ali Al-Faqihi, le shir de Sheikh Rabi', etc. Hein? Eh bien, il a donné, selon l'ancienne méthodologie, par dictée, le matn plus le sharh. En une assise, le Hafidh Al-Hakami connaissait le matn et le sharh par cœur. Hein? Il étudie le Coran en un mois. Sheikh Najmi dit qu'il étudie le double de lui. Qu'est-ce qu'on déduit? Que Sheikh Najmi l'a fait en 2 mois. Hein? Comme d'ailleurs d'autres chers du Yémen, comme Mohamed l'Imam, qui l'a fait en 2 mois également. Cheikh Al-Hafidh Al-Hakami, il étudie un juz par jour. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un juz, c'est par exemple de Amma jusqu'à Nas. Al-Hafidh Al-Hakami, rahimahullah, il est mort à l'âge très très jeune, à l'âge de 35 ans, et il a écrit de nombreux livres. Hein? Vous le connaissez, ce cheikh. Ça m'étonne que je vois des visages étonnés, parce qu'on a déjà utilisé des paroles de l'Hafl al-Hakami dans le premier cours qu'on a fait. Avant qu'on fasse le livre de Cheikh Rabia. Vous vous souvenez quand on a fait l'importance de Talab al-Ilm? Hein? J'avais été prendre des preuves du Coran, de la Sunna et des paroles de Salaf dans un livre de qui? De Cheikh Zayd al-Madkhali. Mais qui était quoi ce livre-là? Qui était une explication d'un poème dans Usul Fiqh de l'Hafl al-Hakami. Hein? D'accord? Bien, pourquoi j'ai rapporté tout ça? Parce que l'Hafl al-Hakami disait, je cherche qu'il avait la meilleure méthodologie. C'est quoi? Il préparait le cours avant d'aller au cours. Par exemple, ici, où on est dans Usul Talata, par exemple, aujourd'hui. Hein? C'est un exemple. Hein? Eh bien, il préparait la partie qui allait être donnée. Hmm? Il allait au cours, il prenait notes. Et donc, il assistait au cours. Il rentrait, il travaillait ses notes, et après, il allait chez le cheikh pour poser des questions et faire ce qu'on appelle le mudhakara fil ilm, et poser des questions et travailler la matière avec le cheikh, l'imam al-Qara'awi. C'est ça qui construit le talib al-ilm. Hein? D'accord? Il n'y a pas que le professeur qui doit, l'enseignant qui doit préparer son cours. L'élève se doit de préparer son cours. Hein? D'accord? Et vous voyez, subhanallah, même des kuffars, ils le font à l'université. Hein? Ils le préparent. Avant d'aller au cours, ils ouvrent le syllabus, ils lisent la matière qui va être enseignée. Ils arrivent au cours, ils ont déjà un pré-acquis sur la matière qui va être enseignée. Ils prennent la matière, mais déjà à la lumière du pré-acquis qu'ils ont, donc ils ont une meilleure compréhension, évidemment. Hein? Et ensuite, ils travaillent la matière. Qu'est-ce qui va en découler de ça? Ils auront des questions. Et donc, ils vont poser la question à l'enseignant. Cheikh dit, « وَهَدِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَعْضَمِ قَوَعِدِ الدِّينِ لِتَضَمُّنِهَا قَاعِدَةِ الْوَلَى وَالْبَرَى فَالْوَلَاءُ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْمُنَاصَرَةُ فِيهِ وَالْبَرَاءُ هُوَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاتُ فِيهِ. قال الشيخ المصنف رحمه الله في بعض رسائله وهي الواجبات المتحتمات الصفحة الخامسة الدي قال وأصل الدين وقاعدته أمران. الأول الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. والأمر الثاني النهي عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه والتكفير من فعله. قوله أن من أطاع الرسول ووحد الله. العبادة لا تسمى عبادة على الوجه الصحيح حتى يجتمع فيها هذان الأمران: طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. va continuer peut-être juste quelques petites minutes, en tout cas juste peut-être traduire cette partie-là, et après on terminera la semaine, pas la semaine prochaine évidemment, mais on garde le contact. Comme je vous dis, la semaine prochaine, il n'y a pas cours en raison de la daura. Hein? Donc ce qu'on a dit ici, c'est sur la parole de Cheikh Mohamed Al-Wahhab rahimahullah, qui dit, le troisième point, que celui qui obéit au messager et voue une adoration exclusive à Allah, il ne lui est pas permis de s'allier à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, et ceci même s'il est le plus proche de ses proches. La preuve de cela, la traduction du sens de la parole d'Allah, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Sourate Al-Mujadala, verset 22. Explication de Cheikh Obed Al-Jabiri, en tout cas une partie de l'explication, parce qu'on n'a pas le temps. Ce point-ci fait partie des règles les plus importantes de notre religion, car elle comprend la règle de l'alliance et du désaveu, al-wala wal-bara. L'alliance, c'est l'amour en Allah et l'aide en Allah, al-hubbu fih wal-munasaratu fih. Le désaveu, al-bara, c'est la détestation en Allah et l'inimitié, c'est-à-dire al-burdu fillah wal-mu'adatu fih. Et Cheikh cite Mohamed Al-Wahhab, mais dans un autre livre maintenant. Il dit, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est-à-dire Cheikh Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, qui est dans un livre qui s'appelle Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Je sais que certains d'entre vous le connaissent. Hein? D'accord? Je ne sais pas, pour les frères qui ont l'édition qu'on avait publiée, nous, à l'époque, qu'on avait la Maktabat Ahl Hadith, qu'on avait édité le livre de 26 moutons dans l'Aqida. Vous connaissez ça, avec toutes les voyelles. Eh bien, l'un des moutons là-dedans, eh bien, c'est ce livre-là, « Al-Wajibat Mutahattimat ». Hein? C'est pas le... C'est peut-être le charh alors, non? On vérifiera, Inch'Allah. Et le cheikh dit... l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, dans l'un de ses épîtres, « Le fondement de la religion... et sa base sont deux choses. L'ordre d'adorer Allah exclusivement et l'incitation à cela. Et l'alliance en cela est de juger mécréant celui qui le délaisse. Deuxième, l'interdiction d'associer à Allah dans l'adoration et d'être intransigeant quant à la gravité de ce sujet. Et détester cette association et juger mécréant celui qui la commet. Hein? Et Cheikh nous dit ici, en tout cas, le talib ilm qui a fait le ta'liq, il dit, voir al-wajibat al-mutahattimat, page 5. On en reste ici, Inch'Allah. Vous me rappelez que la prochaine fois, Inch'Allah, on commence à Anna man ata'a al-rasoula wahad Allah. Il n'y a pas quoi la semaine prochaine, non? Parce qu'il y a la daura. Donc, ni samedi, il n'y a pas cours de Shurut Salah, ni dimanche, il n'y a pas cours non plus de l'Usul al-Thalatha, de Cheikh Abdel Jabiri. Et on se revoit, Inch'Allah, dès que possible. Et donc, si le Cheikh vient, tous les cours vont être annulés jusqu'à ce que le Cheikh reparte, c'est-à-dire qu'à mon avis, jusqu'à presque la fin du Ramadan ou peut-être même jusqu'après l'Aïd. Mais on reste en contact, Inch'Allah. Pour les gens qui ne se trouvent pas le talk, ben, une des meilleures manières de se renseigner, c'est d'envoyer un email à la Maktaba Salafia ici ou de se connecter la semaine prochaine et de voir s'il y a cours tout simplement. D'accord. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير الجزاء اخوه نراكم ان شاء الله بخير